Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Évidemment, Jean-Pierre Foultier avec nous comme chaque semaine. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors, après avoir fait le tour de l'Europe du sport au cours des dernières semaines, on s'en souvient, où vous nous emmenez aujourd'hui?
Alors aujourd'hui et dans les deux semaines qui suivront, je vous propose une petite balade sur les rives de la mer Baltique, dans les trois pays que l'on désigne sous le terme générique de pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Nous y visiterons, comme cela a été le cas l'an dernier pour le Portugal et un peu avant pour les Balkans et la Scandinavie, ce que j'appelle les paysages culturels. Nous y découvrirons leur langue, leurs traditions, leur littérature, leur musique et d'autres spécificités beaucoup plus contemporaines de ces pays nichés aux confins de la Grande Russie. Et comme cela a été le cas à plusieurs reprises, je confie le soin de présenter cette première chronique de la série à mon camarade, ami et géographe préféré, Guy Royer, pour nous en dresser le cadre géographique, mais aussi historique et géopolitique.
Eh bien, bienvenue à Guy Royer, donc, qui va devenir un habitué de ces chroniques. Hein.
Oui, merci, bonjour à tous. En effet, avec un peu de géographie, on se porte toujours beaucoup mieux. Donc, les pays baltes, c'est un terme qui désigne trois petits pays par la superficie de 45 000 à 65 000 km² et par la population, 1 300 000 habitants en Estonie, 1 900 000 en Lettonie, 2 800 000 en Lituanie. L'expression pays baltes est récente, son usage s'est stabilisé entre les deux guerres mondiales, une expression qui suppose une appartenance commune, une proximité entre ces pays. Mais pour certains, on insiste trop sur ce qui est commun au détriment de ce qui est différent.
Alors, on va peut-être commencer par resituer les différences entre ces États.
Oui, elles sont d'abord dans les origines. Les Estoniens sont des Finno-Ougriens, comme les Finlandais et les Hongrois. Les Lettons et les Lituaniens sont des Baltes Indo-Européens. Ceci avec des conséquences. D'abord dans les langues. Les Estoniens parlent une langue ouralienne, alors que le Letton et le Lituanien sont des langues baltes de la famille Indo-Européenne. Puis dans les religions. Estoniens et Lettons, païens jusqu'au XIIIe siècle, convertis de force au catholicisme romain par les germaniques, sont devenus protestants quand, au XVIe siècle, les chevaliers teutoniques ont opté pour la réforme. Au XVe siècle, les Lituaniens ont reçu le catholicisme des Polonais, auxquels ils étaient alliés contre les chevaliers, barons baltes héritiers des teutoniques. Ces derniers dominaient aussi les Estoniens et les Lettons, qui n'ont jamais quitté leur territoire, alors que les Lituaniens constituaient, dès le XIVe siècle, un État sous l'autorité des Grands-Ducs jusqu'aux confins de la mer Noire. Une histoire différente, donc, jusqu'au XVIIIe siècle. Enfin, des différences dans l'économie et les formes de transition vers le marché, après l'abandon du communisme. Aujourd'hui, l'Estonie est plus riche que la Lettonie, qui l'est davantage que la Lituanie. L'Estonie, le tigre de la Baltique, exporte des nouvelles technologies en informatique, avec des entreprises majeures comme Skype. Sur le plan linguistique, historique, religieux, culturel, la Baltique n'existe pas.
Il y a tellement de différences qu'on se demande bien pourquoi on parle de pays baltes finalement.
Alors l'unité vient des paysages, avec une importante façade côtière. Au bord de la mer Baltique, c'est plat. À l'extrémité de la grande plaine d'Europe du Nord, où les étendues d'eau et les forêts prédominent, quelques collines ne dépassent pas 400 mètres d'altitude. Aucune continuité territoriale, on vient de le voir, n'avait existé depuis des siècles dans les provinces baltes. Après une série d'occupations, germaniques, suédoises ou polonaises, ces pays deviennent indépendants en 1917-1918, puis tombent sous la domination nazie puis soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1988, les revendications d'indépendance vis-à-vis de l'URSS s'expriment. Le 23 août 1989, une chaîne humaine de 600 km unissait les trois peuples. Proclamée entre février et mai 1990, l'indépendance réelle est obtenue en 1991. Tournant alors le dos à la CEI, Communauté des États indépendants, les pays baltes s'orientent délibérément vers l'Europe. Carrefour stratégique, zone de contact et de conflit, la Baltique est un pont entre l'Est et l'Ouest.
Alors justement, entre l'Est et l'Ouest, est-ce que ces pays ont un rôle particulier ?
Membres de l'UE depuis 2004, les pays baltes font partie de la zone euro et de l'espace Schengen. La même année, ils sont entrés dans l'OTAN, offrant aux États-Unis un avant-poste face aux possibles politiques agressives russes. Actuellement, de fortes tensions avec la Biélorussie entraînent le renforcement des frontières. En Lituanie, par exemple, construction d'un mur de barbelés sur les 680 km de frontières communes, qui sont aussi les frontières de l'Europe. Le dictateur biélorusse envoie des migrants vers les pays baltes en réaction aux sanctions prises par l'UE contre la Biélorussie et pour punir les États baltes d'abriter ses opposants. La Lituanie est devenue une terre d'asile pour l'opposition biélorusse, avec l'ex-candidate à l'élection présidentielle Svetlana Tsikhanouskaya. Elle a aussi accueilli, fin août 2021, le Vilnius Russia Forum, réunissant diverses générations de militants russes exilés. L'indépendance des pays baltes crée une nouvelle donne géopolitique pour la Russie. Réduction du littoral russe en mer Baltique, perte des ports, Tallinn, Riga, présence de fortes minorités russes dans ces États. Du 10 au 16 septembre 2021 ont eu lieu les manœuvres militaires Zapad 2021. Zapad, c'est l'Ouest en russe, avec 200 000 soldats. Le but est d'impressionner les adversaires de la Russie. 17 pays, dont l'Inde, y participent. La Chine est invitée en tant qu'observateur. Les pays baltes se considérant comme cible d'une guerre hybride en appellent à l'OTAN, qui a dépêché en Lituanie une équipe spécialisée dans ce type de conflit. L'UE se déclare solidaire de ces petits pays, où le sentiment de méfiance à l'égard de la Russie est profondément ancré dans la mémoire collective, mais qui sont au cœur de la stratégie russe en Europe.
Voilà, pour ce décryptage, on y voit plus clair, hein, et on voit que la géopolitique est évidemment extrêmement importante encore sur place. Merci Guy, en tous les cas, de ces éclairages. Alors je ne sais pas si Guy va d'un seul coup devenir chroniqueur officiel de cette chronique, ou est-ce qu'on va retrouver Jean-Pierre la semaine prochaine ?
Je pense qu'on va le retrouver quand même. Voilà, mais je remercie vivement Guy, moi aussi. Et donc la semaine prochaine, nous ferons ensemble une promenade dans les paysages culturels de ces trois pays que Guy vient de nous présenter. Nous y évoquerons leur langue, leur tradition, leur littérature aussi.
Il n'y aura personne pour vous épauler cette fois, il va falloir faire le boulot tout seul.
Tout seul, Sébastien.
Bon, eh ben donc à la semaine prochaine et Guy, à très bientôt.
Bien sûr, merci.
Au revoir.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.